J'ai pas choisi les passages les plus faciles. Je vais prendre quelques passages de l'épître aux Éphésiens, qui était écrite par l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Et le sujet de mon message, c'est le projet bienveillant de Dieu. Alors on y va. Seigneur, j'aimerais te demander d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre, saisir ce que tu veux nous dire ce matin. Et c'est certainement pas la même chose pour chacun, mais qu'on puisse recevoir ce que tu as spécifiquement pour chacun de nous. Amen. Il est là. Et merci Laurent. Le premier passage, il y a quelques passages, et je vais simplement prendre ces passages et dire quelques commentaires sur ces passages. Le premier passage, ben, c'est l'entrée dans cette lettre de Paul aux Éphésiens. L'apôtre Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Je vous ai dit, je n'ai pas choisi les passages les plus faciles. Mais il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on a déjà tout dit ce matin. Entre le psaume, entre les chants, Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Il a été d'une générosité incroyable avec chacun de nous. Et ce que je retiendrai, la seule chose que je vais dire, c'est qu'il nous a donné une vie qui a un vrai sens, une vraie vie. On peut vivre avec lui. Et c'est un cadeau magnifique, mais c'est qu'une partie. Il a rien retenu. Il est généreux avec nous et on peut le louer, mais on l'a déjà fait ce matin. Je vous ai dit, le projet bienveillant de Dieu, c'est dans le verset 9. L'apôtre Paul continue et il dit « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. » Dieu a un projet bienveillant, un projet de bonté, d'amour, de... Il sait ce qu'il nous faut, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Alors on pense au projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Oui, c'est qu'on ait une vie pleine. Mais là, l'apôtre Paul, c'est pas en négation avec le reste, mais l'apôtre Paul nous parle du projet final de Dieu, c'est de tout réunir sous l'autorité de Jésus, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre, qu'il ait toute la place d'autorité. Et je me disais, est-ce que vraiment c'est le message que j'ai envie de donner, j'ai envie d'y réfléchir. C'est complètement contre-culture. On a envie de faire ce qu'on veut et d'être réuni, et c'est réuni, sous l'autorité de Jésus. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est vrai que Dieu est cohérent, c'est comme c'est curieux. Quand il a créé l'homme, on connaît le récit, hein, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il leur a dit, mais jouissez du jardin, cultivez le jardin, et laissez-moi vous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est ma part, c'est la part de Dieu. Et là, vous aurez une vie pleine, heureuse. Et qu'a fait l'homme? Eh bien, il a écouté le diable qui a dit, mais quoi, Dieu a dit? Dieu n'est pas généreux. Dieu retient quelque chose. Et ça a été la chute, ça a été le péché. Mais dans le temps convenable, il y a eu un temps où Dieu a rétabli le plan initial. Et on sait quel a été le chemin, c'est la mort et la résurrection de Jésus sur la croix. Pour rétablir le plan initial, qui est le plan qui nous convient. Je continue. Plus loin, au verset 18 et 19, l'apôtre Paul continue par une prière. Et sa prière, c'est « Je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. » C'est pas évident à saisir. On a besoin d'une intervention de Dieu qu'il illumine les yeux de notre cœur. Alors, il y a trois choses. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu nous a appelés. Dieu appelle chacun de nous pour entrer dans son plan. Et c'est un plan qui est plein d'espérance. Donc, qu'il ouvre notre cœur, qu'il nous donne soif de comprendre, soif de connaître, qu'il ouvre notre cœur pour que nous saisissions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il nous appelle à entrer dans son plan. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. Il nous partage un héritage. Un héritage, c'est ce qu'on reçoit à la mort de quelqu'un. Jésus-Christ est mort, est ressuscité, et il nous fait don d'un héritage. Alors l'héritage, il ira jusque dans l'infinité, jusque dans l'éternité, mais on a déjà quelque chose, on a reçu déjà une part de l'héritage. On a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide à vivre, nous équipe pour répondre à l'appel de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on n'arrivera pas à vivre cette intimité avec Dieu qui nous permet de faire sa volonté. Et le Saint-Esprit, c'est une partie de la divinité, je vous dis, l'épître aux Éphésiens n'est pas facile. Mais c'est Dieu qui habite en nous et qui nous donne un réservoir dans lequel on doit puiser d'amour, de paix, de joie, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, de foi et de maîtrise de soi. Et c'est à notre disposition pour vivre cet appel de Dieu, à vivre dans cette communion avec Dieu où on ne fait pas notre volonté, mais on fait la sienne. Et la troisième chose, et je trouve que c'est la plus, et c'est celle qui m'a, que je trouve bouleversante et terriblement encourageante, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. C'est vraiment pas facile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ou Jésus agit aujourd'hui dans chacun de nous, et vous avez vu, avec une grande puissance, avec le pouvoir de sa force, et puis envers nous qui croyons, en notre faveur, il est totalement agissant pour qu'on puisse entrer dans cet appel, pour qu'on puisse vivre dans cette intimité. Tu as parlé de l'intimité avec Dieu. Pour qu'on puisse vivre cette intimité avec Dieu, pour qu'on puisse vivre cet amour, cette union avec Jésus. Eh bien, Jésus travaille avec toute sa force, avec toute son efficacité. On n'est pas laissé seul. Et moi, ça m'encourage terriblement pour moi, mais j'ai envie de vous dire pour les autres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, je trouve que les autres, ils tournent en rond, puis ils n'arrivent pas à voir, mais quel est le nœud? Puis on a envie d'aller... Ben non, Jésus agit avec force, avec efficacité, en son temps, en faveur de tous ceux qui croient en lui. Et je trouve terriblement encourageant. Et puisque ce qui est encourageant, c'est que l'apôtre Paul ne dit pas, mais agis, fais quelque chose. Il dit, ouvre leurs yeux pour qu'ils sachent, pour qu'ils voient ce qui existe déjà. Et ça, c'est, pour moi, ça, c'est puissant. Dieu est à l'œuvre et la prière, c'est qu'on puisse ouvrir les yeux pour voir ce qu'il fait. Et c'est une vie de confiance et d'obéissance. Mais avant tout de confiance en l'amour de Dieu, en sa faveur qui agit pour nous. Et puis, pratiquement, j'ai voulu prendre un exemple pratique. Alors, je vais lire le passage. Alors, ne tombez pas dans dans les choses qui viennent automatiquement. Laissez. J'ai fait exprès de ne pas lire avant. Vous verrez pourquoi. J'ai pas lu. Je commence au verset 25. Je ne lis pas les versets 23 et 24. Exemple pratique. Et ce que j'ai fait, c'est comme ça parle des relations de couple et des relations entre Jésus, Christ, et son Église. Alors, comme c'est l'apôtre Paul, ce n'est pas facile, ce que j'ai fait en noir... J'ai mis ce qui concerne le couple. Et ce qui concerne le couple, je dirais juste, travaillons pour que dans nos couples, il y ait un cadre d'amour et de respect. C'est ce qu'il y a juste à la fin. Ça, c'est notre travail. Amour et respect. Si on arrive à vivre avec l'amour et le respect, on a déjà gagné beaucoup de choses. Mais ce que je vais voir, c'est ce qui est en rouge. Mais je vais lire le tout, hein. Mais ce qui est en rouge, parce que ça nous montre ce que Jésus fait dans l'Église. Pour chacun de nous et pour l'Église. Et je vous donnerai un petit exemple pratique, comment je le vis. Éphésiens 5. Marie, aimez votre femme. C'est pour ça que je vais quand même le dire. Et puis les versets suivants, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Donc ça, je ne l'ai pas lu. Hein. « Marie, aimez votre femme ».
Excuse, mais c'est les versets précédents.
Précédents, oui.
Tu as dit versets suivants.
Bon. Amour et respect. C'est un joli défi. Merci, Pierre. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. En ce qui concerne Jésus et l'Église, eh bien, les images qui sont employées ici, c'est Jésus, c'est l'époux, c'est le mari, et l'Église, c'est l'épouse. Et il y a une deuxième image, c'est le corps de Christ, c'est comme une personne, c'est le couple, c'est une personne, ça devient, c'est uni, c'est une seule personne. Pour l'Église, c'est la même chose. Il y a une personne où Jésus est la tête, nous est présenté comme la tête, et le corps, c'est nous. Et là, on voit la diversité, on est chacun des membres, on a une responsabilité individuelle, tandis que dans l'image de l'époux et l'épouse, on est plus vu collectif, et il y a une responsabilité collective. Alors, que fait Jésus ? Bon, il s'est donné lui-même pour elle, ça c'est de nouveau l'œuvre de la croix, afin de la conduire à la sainteté. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, donc de la Bible, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'église parfaite. Jésus y travaille. Alors, elle sera parfaite au ciel, mais Jésus y travaille. Il y travaille collectivement, mais il y travaille surtout individuellement. C'est membre par membre. Et je riais parce que tu as choisi ce petit chant au début, puis tu as dit c'est pour les enfants. Mais mettez la parole en pratique. Il l'utilise par la parole, par la Bible. Ces paroles qui tout d'un coup nous interpellent. Et c'est parole après parole. C'est tâche après tâche. Péché après péché. Alors je vais vous faire une confession. Comment est-ce que je le vis ? Parce que c'est tout bête. On a vu... Ouais, comment dire ça ? Il y a des choix qu'on fait dans la vie. Et c'est une question de choix, je crois. On obéit ou on désobéit. Et on a vu un choix avec Cain et Abel la semaine dernière. Eh ben, c'est un choix qui est vraiment un choix de vie ou de mort. Mais il y a des petits choix dans notre vie qui, mine de rien, sont importants. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent que ma façon de me détendre, c'est de faire des jeux. Je prends ma tablette et je joue. Et les jeux, c'est addictif. Donc, c'est pas facile à gérer. Et l'année dernière, je me suis dit, devant Dieu, vraiment, j'ai fait ça sérieusement. Seigneur, je décide, je ne jouerai plus le matin. C'est l'après-midi. C'est OK, mais le matin, non. C'est pour autre chose. Et puis, au début de l'année, midi moins 5. Mais vous savez, je me suis posé la question, midi moins 5. Attendez, c'est du légalisme. C'est ridicule. J'ai mis mon dîner en route. Je dois attendre que ça chauffe. Je ne vais pas prier pendant 5 minutes. C'est hypocrite, c'est pas... J'ai pris ma tablette, j'ai joué. Et puis, des fois le matin, à 10 heures, tout d'un coup, je me dis, mais 5-10 minutes, juste pour me détendre avant de passer à autre chose. Et j'ai joué 5-10 minutes. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Et puis on lit, on a recommencé la Bible au début, et on lit le Pentateuque, les livres de Moïse, les premiers livres de la Bible. Et je vous garantis que dans les premiers livres de la Bible, on trouve souvent quand vous... Quelle est l'expression ? Quand vous observez vos vœux, quand vous observez vos vœux, faites ceci. Quand vous observez vos vœux, faites cela. Ou ne faites pas celui-ci, vous pouvez le supprimer. C'est fou le nombre de versets qui parlent des vœux. Et chaque fois que je tombe sur un verset qui parle des vœux, je me dis, mais est-ce que Dieu est en train de me parler ou pas ? Ouais, mais c'est ridicule. Je veux pas tomber dans le légalisme. Je veux pas. Non. Et puis deux jours, trois jours après, short. Ben, franchement, il a fallu, il y a quelques semaines, au mois de février, tout d'un coup, un matin, je me suis dit, je crois même que c'était au mois de mars. Ouais, il a fallu plus de deux mois pour que je dise, mais Seigneur, mais j'ai, si ça remue chaque fois et que j'ai mauvaise conscience, ben, il y a un autre verset qui dit, tout ce qu'on fait avec mauvaise conscience est péché, flûte. Et j'ai dit, Seigneur, devant toi, je te demande pardon. Pour moi, c'était important. Et je l'ai fait juste avant de faire ma lecture. Et franchement, j'ai eu une lecture de la Bible jubilatoire. Pas à cause du vœu, mais ça a libéré quelque chose. C'est un tout petit truc. Donc le chant que tu as chanté au début, que tu nous as fait chanter, il était tout à fait dans le sujet. Mettre en pratique la Bible. Et pas quand ça nous travaille. On sait très bien, on est, je sais pas, peut-être que vous êtes plus clean comme moi, mais on sait quand ça nous dérange, quand ça... prenons-la au sérieux. Et puis, il y a des choses qu'on passe, on ne comprend pas, c'est pour plus tard ou c'est pas pour nous, mais prenons la Bible au sérieux. Et puis, dimanche dernier, j'avais les ados et puis on a pris la tentation de Jésus. Et puis, je me suis dit, ça, il faut que je le rajoute aussi. Comment est-ce que Jésus, comment Satan, le diable, a essayé de tenter Jésus? C'est en prenant la Bible. Il l'a mis en haut du temple, puis il lui a dit, jette-toi en bas parce que la Bible dit que Dieu enverra ses anges pour te sauver, pour te protéger. Et je dirais, mais faisons attention aussi de ne pas nous laisser piéger par des paroles qui sont des versets de la Bible, qui sont sortis de leur contexte ou que simplement qui ne sont pas pour nous. Et c'est pour ça qu'on est les uns les autres. Parlons-en les uns aux autres. Mais prenons la parole au sérieux. Alors en résumé, je dirais, faisons confiance à Dieu, à Jésus. Il agit en notre faveur, avec efficacité, avec puissance, sans retenue, avec amour, avec bonté. On l'a chanté avec tendresse, avec fidélité, avec tout ceci. Il agit en notre faveur. Ça vaut la peine de lui obéir parce que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Mais prenons la parole au sérieux. Alors, pour finir, on va juste, je vais laisser une minute, un petit moment de silence. Vous puissiez réagir. Vous dire... c'était pas pour moi, c'était nul, c'était... Réagissez. Ou bien, ça c'est pour moi. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on lise le Notre Père ensemble, tous ensemble, parce qu'il y a la responsabilité individuelle et il y a la responsabilité collective. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, j'aimerais vraiment te demander que ta parole, elle puisse être efficace en chacun de nous. Et Seigneur, tu sais où on a besoin d'être encouragé. Et tu sais où on a besoin d'être averti. Et toi, tu es. Ouais, tu ne te trompes pas. Alors Seigneur, on veut te faire confiance et on veut te dire merci. Amen.